Radio 1. Premier sur l'info. L'info locale.
Il est 7h30, on est mardi matin, c'est le 9 octobre aujourd'hui, c'est parti pour le journal. Benoît Buquet, bonjour.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Premier jour hier du procès du crash d'Air Moréa, premier jour chargé en émotions. Les parties civiles sont venues nombreuses et vêtues de blanc. Vous entendrez dans un instant la douleur présente chez les proches des victimes. Et puis vous entendrez aussi le débat qui a commencé entre les avocats. François Quinquis pour Air Moréa défend l'hypothèse d'un malaise, d'une erreur du pilote. Étienne Rosenthal pour les parties civiles. Il juge que la rupture du câble de gouverne est difficilement contestable. Dans ce journal également, 3 mois de répit pour la dépêche de Tahiti. Redressement judiciaire prolongé jusqu'à fin janvier et promesse d'un plan de continuation. Et puis le navire Race for Water, propulsé au soleil et au vent, qui est au quai de Papeete cette semaine pour faire campagne contre la pollution des océans par le plastique.
C'était donc hier l'ouverture du procès du crash d'Air Moréa au tribunal correctionnel de Papeete.
Procès qui s'est ouvert hier matin avec cette image. Les parties civiles nombreuses, toutes habillées de blanc. 11 ans après l'accident d'avion qui a coûté la vie à 20 personnes le 9 août 2007, la douleur est toujours présente. Teva Itea Taputuarei a perdu son père à 9 ans. Hier, elle a expliqué à Vaite Orar Ipambrin que le premier jour du procès a été plus facile que dimanche lorsque les familles ont pu visiter la salle d'audience.
On devait vraiment genre présenter ce qu'on ressentait à travers ce procès, qu'est-ce que ça représentait pour nous, et on devait faire vivre notre proche à travers notre présentation. Et aujourd'hui c'était plus facile d'entendre les faits, donc ça va, mais on attend encore les autres jours. Donc
le juge l'a dit ce matin que ça va être un procès difficile, surtout au niveau émotionnel. Vous en pensez quoi et comment est-ce que vous vous êtes préparé par rapport à ça?
Je veux dire qu'on sera jamais vraiment préparé à ça, parce que on entendra sûrement des choses qui seront très difficiles à entendre, surtout venant des prévenus, et on n'attend pas moins venant d'eux. Donc vu que ça fait 11 ans qu'on attend, on attend d'entendre ce qu'ils ont à dire maintenant.
Vous attendez quoi précisément de ce procès?
La vérité.
Voilà, des familles qui veulent connaître la vérité pour faire leur deuil, disent-elles. Alors hier, à l'ouverture du procès, l'un des prévenus, le contrôleur de production et contrôleur qualité de la compagnie, Didier Kemener, ne s'est pas présenté à l'audience. Son avocat a expliqué qu'il avait changé d'adresse et qu'il n'avait pas été convoqué régulièrement. Quelques minutes plus tard, l'ancien directeur du service d'État de l'aviation civile, Guy Young, a estimé que, en tant que fonctionnaire d'État, il devait être jugé devant une juridiction administrative. Et puis le débat entre les avocats. François Quinquis, qui défend notamment la compagnie Air Moréa, défend lui 2 hypothèses, comme il dit, une erreur de pilotage et un malaise du pilote.
C'est tout d'abord l'état de santé du pilote qui peut très bien avoir fait un malaise. Alors bien évidemment, je ne l'affirme pas, mais c'est une réflexion qui s'impose notamment à la lecture du rapport du médecin légiste, du docteur Beaumont, qui le laisse présumer et qui se trouve être conforté par d'autres cardiologues qui sont intervenus depuis lors dans le dossier. Donc on ne peut absolument pas exclure cette hypothèse, surtout qu'elle se trouve également étayée par des circonstances particulières. Par exemple, on le dira pendant l'audience, le pilote qui avait dégrafé sa ceinture, qui avait fait un malaise le matin, qui avait un peu trop bu, ou en tout cas fait un petit peu la fête de la veille. Un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser que c'est pas une hypothèse absurde.
Et réponse de l'avocat des parties civiles, Étienne Rosenthal. François Quinquis refait l'histoire. La rupture du câble de gouverne est difficilement contestable.
Quinquis, il refait l'histoire. On n'est pas là pour refaire l'histoire, on est là pour regarder les faits objectifs. Après, s'il a des doutes, il a des doutes. Il va les exploiter. Puis nous, on va lui montrer que les doutes, ils disparaissent les uns après les autres. Si on fait un travail rigoureux, c'est une invention, le malaise. Il n'y a pas eu de malaise. Il y a eu des investigations sur le plan médical, avec une autopsie, et rien n'a été mis sérieusement en avant qui pourrait permettre de penser à un malaise. Le malaise, c'est une invention. Et l'exclamation qui a été la sienne, je rappelle qu'il n'a pas dit aïe ou ouille, ou qu'il n'a pas fait le bruit de quelqu'un qui a malaise. Il a dit ah, putain. Et ça, en général, beaucoup de gens, y compris certainement pour mettre Quinquis, on se dit quand on a un problème technique. Voilà, il faut rester rigoureux. On ne peut pas poser des hypothèses comme ça dans tous les sens du terme. Il faut rester rigoureux.
Propos recueillis hier à l'ouverture de l'audience par Vaite Orar Ipambrin et suite du procès ce matin avec aujourd'hui l'audition de l'enregistrement de vol.
La dépêche de Tahiti obtient 3 mois de répit.
Au tribunal mixte de commerce de Papeete, le tribunal de commerce qui a maintenu hier matin le journal quotidien en redressement judiciaire jusqu'au 28 janvier prochain. Nouveauté tout de même, la direction de la dépêche de Tahiti s'est engagée à présenter un plan de continuation lors de la prochaine audience dans 3 mois et demi. L'avocat de la dépêche, Jean-Michel Vergier, avec les journalistes hier à la sortie de l'audience.
Il va rien se passer. On va juste préparer le plan de continuation qui sera déposé pour le 28 janvier. Et voilà. Et donc le tribunal, à ce moment-là, décidera si le plan de continuation est suffisamment sérieux pour être présenté aux créanciers.
Et là, on parle de combien en termes de créances, justement ?
J'en sais rien. Elles ne sont pas définitivement arrêtées.
Mais aujourd'hui,
on n'en sait rien, elles ne sont pas définitivement arrêtées.
Mais la CPS qui a provoqué le redressement, elle a un chiffre.
Ben, demandez à la CPS.
Voilà, alors la dette de la dépêche, selon Tahiti Nuit Télévision, a été chiffrée à 700 millions de francs cumulés, dont 200 millions de dettes salariales. Et la procédure a bien lieu devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, évidemment.
Et puis la Polynésie française est à New York aujourd'hui pour un nouveau débat sur la décolonisation.
Le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, est actuellement à New York pour participer à la 4e commission sur la décolonisation de l'ONU qui évoquera aujourd'hui la Polynésie française. Selon un communiqué de la présidence, Édouard Fritsch a multiplié les rencontres à New York. Les ambassadeurs des Samoa, d'Antigua et Barbuda et du Liberia. Et puis un assistant du secrétaire général de l'ONU, Édouard Fritsch, défend, je le cite, la volonté de la majeure partie des Polynésiens de continuer avec le statut d'autonomie et le soutien de la France. Une délégation indépendantiste est également présente à New York. Oscar Temalo a été invité vendredi par l'Université Columbia à s'exprimer sur l'impact des essais nucléaires en Polynésie, l'impact sur la santé et l'environnement et plus généralement sur la société polynésienne des 30 années d'expérimentation nucléaire de l'État français. C'était l'intitulé de sa présentation et Oscar Temalo a aussi promis, je le cite, des annonces devant la 4e commission de l'ONU.
Il est chez nous, Race for Water, ce bateau écolo qui fait le tour du monde pour lutter contre le plastique.
Ce bateau propulsé aux énergies renouvelables qui elle supporte une expédition mondiale consacrée au défi de la gestion des déchets. Il sera donc à Papeete toute la semaine jusqu'à vendredi. Ensuite, il ira à Morea, à Bora Bora et à Tetiaroa. Un catamaran révolutionnaire donc, recouvert de 512 mètres carrés de panneaux solaires, tracté dès que possible par une aile de kite de 40 mètres carrés et à bord duquel sont stockés 25 bouteilles d'hydrogène à 350 bars. Basile Prime, l'ingénieur de bord.
Alors, le bateau fonctionne avec 3 énergies. Donc, la principale qui va être le soleil va être utilisée au quotidien et va charger nos batteries pour la nuit. On a un système de kite qui permet, lorsque les conditions météo sont bonnes, de tracter le bateau et du coup de couper nos moteurs électriques. Et la dernière énergie, c'est l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, quand on est en navigation, on l'utilise pour produire de l'électricité, pour compléter les journées quand on manque un peu de soleil et quand nous sommes au port comme actuellement, on va utiliser le surplus de solaire en fait pour produire notre propre hydrogène. Donc en fait c'est plus un stockage comme une batterie en fait, l'énergie hydrogène, sachant que c'est une batterie propre parce que on n'utilise que de l'eau que après on retransforme en eau. En fait c'est une opération blanche pour la nature.
Alors la mission de ce bateau, c'est la lutte contre les déchets plastiques. Si on continue à ce rythme, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan, insiste la fondation Race for Water, qui estime que ramasser tout le plastique dans l'océan est désormais utopique. La fondation défend la solution de la pyrolyse à haute température pour produire de l'électricité à partir de déchets plastiques. C'est ce qu'explique la chargée de programme, Camille Rollin.
Inciter à la collecte des déchets et peut-être s'en servir, parce qu'en fait c'est un produit qui provient de l'énergie fossile, donc il y en a en quantité sur les îles et dans les villes, s'en servir comme par exemple pour produire de l'électricité. C'est que ce que nous proposons, nous, avec une solution assez innovante de pyrolyse à haute température qui permet de faire cela, de transformer des mélanges de plastique en électricité. On est en contact avec la municipalité de Faa et on va visiter les différentes infrastructures de l'île. Et je sais qu'il y a eu un lourd travail de fait sur la pyrolyse, donc j'ai hâte de cette rencontre. En termes de volume, je pense que malheureusement il y a de quoi faire. Voilà, après c'est sûr que ça va être, il faudra une volonté politique et des industriels locaux pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est possible, c'est sûr.
Le bateau est visible à quai à Papeete jusqu'à vendredi. Et sachez que l'entrepreneur suisse à l'origine de la fondation Race for Water, Marco Simeoni, donnera une conférence publique et gratuite à l'Université de la Polynésie française demain, mercredi, à 18h30. 7h40 sur Tiers FM et Radio 1.